Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie de Pascal Maguessian, venu nous présenter son dernier ouvrage, Sur le chemin de Giragos, un pèlerinage, une sorte de retour aux sources sur les sentiers d'Anatolie orientale où une partie de vos racines familiales plonge profondément entre arménité et souvenir d'une terre de cocagne nourrie du labeur, de l'espoir, de la foi, des rapports aux autres cultures, aux autres religions, autant d'aspects qui vous ont façonné et qui ont façonné ce que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi je précise tout ça, Pascal Maguessian ? Parce qu'on le sent à chaque page dans votre ouvrage. Bonjour Pascal.
Bonjour Sébastien de Courtois.
Alors un ouvrage que j'ai découvert avec passion parce que nous avons vu, nous connaissons un petit peu ces paysages. Tout d'abord c'est un livre de courage. Parce que vous êtes allé seul, pratiquement. Alors on voit qu'il y a un accompagnateur, une ombre, disons, une ombre protectrice qui vous suit. Je parlais de pèlerinage de la mémoire, une marche. Pourquoi ce voyage ?
Vous avez prononcé le juste mot. Il s'agit bien d'un pèlerinage. Un pèlerinage que j'ai souhaité accomplir en août 2015, à l'occasion de la fête de l'Assomption, qui devait... et ce de manière tout à fait historique, qui devait être célébré dans la cathédrale apostolique arménienne Soup Giragos Saint-Syriac de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Et si cette célébration avait eu lieu le 16 août 2015, elle aurait été une première depuis à peu près 90 ans, c'est-à-dire depuis le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens syriaques. Et donc, il y avait ce grand projet de pèlerinage international à Soup Giragos de Diyarbakir, organisé par l'organisation Terre et Culture, en lien avec le patriarcat arménien d'Istanbul. Malheureusement, ce pèlerinage collectif n'a pas eu lieu, puisque la guerre a repris dans le sud-est de la Turquie après l'attentat de Şuruç le 20 juillet 2015. Néanmoins, j'avais entamé mon propre périple, une dizaine de jours plus tôt, le 12 juillet exactement, à Ani, au nord-est de la Turquie, et je souhaitais donc me rendre à Diyarbakir, à Soup Giragos, à pied, ce qui constitue un pèlerinage dans le sens humain du terme, une marche en priant, une marche en méditant, une marche de 1000 km qui devait me permettre d'arriver à Diyarbakir le fameux 16 août 2015.
Alors vous avez publié déjà plusieurs ouvrages, vous avez été journaliste. On s'est connu à l'époque où vous travailliez pour les RCF à Lyon. Vous êtes un pilier, disons, de cette recherche, de cette curiosité du christianisme oriental avec des pluriels. Hein. Vous êtes vraiment dans une ouverture. Et puis les cultures des autres aussi vous intéressent. Vous intéressez à l'islam, vous intéressez aux minorités des mondes musulmans. Vous n'opposez pas, vous essayez de rassembler. Et cette marche, être seul, donc d'un itinéraire qui part du nord-est de la Turquie, donc... Vous évoquez Ani, cette ancienne capitale arménienne, jusqu'au sud-est, vous êtes en plein dans votre sujet.
Oui, c'est une marche méditative, d'abord et avant tout. Puisqu'il s'agit d'un pèlerinage, la meilleure façon de pèleriner, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire, et je me suis dit que, ce faisant, une réflexion viendrait à moi, spontanément, presque naturellement. Ça n'a pas été si simple, il a fallu 4 ou 5 jours que mon corps s'assouplisse un peu, que les courbatures soient épongées, si je puis dire ainsi. Et il m'a fallu 4 ou 5 jours pour véritablement entrer dans une méditation personnelle. Donc c'est un livre de pèlerinage et de méditation, mais ce livre est aussi, et ce pèlerinage est aussi un cri, parce que l'homme qui marche est un homme qui crie. Souvenons-nous de toutes les marches qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Et j'ai donc souhaité joindre à la prière le cri d'un peuple qui a été exterminé en 1915.
Pourquoi ? Parce que Nous ne cheminons pas dans cette partie de la Turquie orientale comme on traverse l'Europe pour aller vers Saint-Jacques de Compostelle, avec le patronyme qui est le mien en cette année si sensible du centenaire du génocide des Arméniens, avec ce contexte géopolitique extrêmement dégradé tout autour des frontières turques, écrivez-vous, avec ces groupes islamistes armés qui vont et viennent. On ne voyage pas seul dans cette partie de la Turquie, sauf à cultiver le goût du risque. Ce qui n'est pas votre cas.
Non, ce n'est vraiment pas mon cas. J'ai néanmoins considéré qu'il y avait en Turquie une petite lueur d'espoir depuis à peu près 5 ou 6 ans. Une petite lueur d'espoir qui permettait d'envisager, ou plutôt de penser l'avenir, ou de commencer à penser l'avenir. Il y avait en Turquie, il y a quelques années, un vaste mouvement civique, accompagné d'un mouvement intellectuel, académique, populaire, pour une société fraternelle, ouverte, tolérante, accueillante, bienveillante à l'égard des communautés, bienveillante également à l'égard du passé. Je me souviens que, alors que je me trouvais en Turquie en 2010, en 2011, en 2015, nous pouvions parler avec les Turcs et avec les Kurdes, nous pouvions parler, j'allais presque dire, entre guillemets, librement, de la question du génocide arménien. Quelque chose avait donc changé dans cette Turquie, qui permettait un dialogue, pas forcément un aboutissement, mais au moins l'amorce d'un dialogue. Et j'ai considéré que 2015, alors que existait cet espoir, l'année du centenaire du génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens, j'ai considéré qu'il fallait essayer quelque chose. Un petit peu, vous savez, lorsque c'est un phénomène météorologique, lorsqu'il y a la pluie, l'orage, entre les deux souvent il y a une percée, une trouée, le beau temps qui arrive.
Il y avait une éclaircie,
une petite trouée. Et cette trouée m'a permis d'avancer, m'a permis de cheminer, tout en mesurant le risque. Car effectivement, il y avait des risques à cette époque-là. Je ne sais pas si aujourd'hui je le referais dans les mêmes conditions. Mais il y avait des risques en 2015, mais ces risques, j'ai tenté de les minimiser au maximum, en étant assisté justement d'un ami kurde, que j'appelle Ahmet dans mon livre, et qui vraiment a été comme un père et un frère pour que je puisse accomplir mon vœu, pour que je puisse accomplir mon pèlerinage.
Alors il vous laisse seul dans votre marche, mais on sent qu'il n'est pas très loin derrière vous, hein, oui. Qui suit avec une voiture, vous donnez des rendez-vous d'étape.
Oui, c'est ça.
Donc vous êtes seul dans votre marche. Je vous lis maintenant. « J'ai marché pour éprouver mes certitudes et mes doutes, mes rêves et mes cauchemars. J'ai marché en quête de repentance, de justice, de paix et de fraternité. J'ai marché pour tenter de restaurer ce principe de vie fondamentale. Marcher, c'est vivre. » J'ai marché en quête d'avenir, porté par cet irrésistible besoin de ressentir dans mon corps et dans mon cœur la grâce de vivre.
C'est très émouvant de vous entendre lire ces lignes parce que ces lignes, je ne pouvais les écrire qu'en marchant. Elles me sont venues précisément parce qu'il y avait ce cheminement. J'avoue que 3 ans plus tard, ce serait peut-être plus difficile de l'écrire comme ça. Mais il faudrait, pour pouvoir prolonger l'écriture, il faudrait que je reprenne le cheminement. Il me tarde, dès qu'une éclaircie apparaîtra en Turquie, il me tarde de reprendre ce cheminement là où je l'ai arrêté, dans la plaine de Mouche.
Nous sommes en compagnie de Pascal Maguessian ce matin pour évoquer un superbe petit livre sur le chemin de Giragos, alors qui a été publié aux éditions de l'Union internationale des organisations Terre et Culture. Alors nous mettrons les informations sur le site internet de notre émission pour que vraiment vous puissiez vous le procurer. Alors cher Pascal, vous avez maintenant une nouvelle vie depuis ce pèlerinage qui a été un tournant, j'ai l'impression, et vous avez participé à la fondation d'une association qui s'inscrit dans le cadre de ces drames proche-orientaux, de ces communautés chrétiennes et autres d'ailleurs dispersées, de ce patrimoine assassiné, et une association qui s'appelle Mésopotamia Héritage. Voilà, donc vous vous intéressez au patrimoine maintenant, expliquez-nous un petit peu.
En fait, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre mon parcours en Turquie orientale et mon parcours en Irak. En fait, ce parcours est très simple. Lorsque je me trouvais en Turquie orientale, pendant plusieurs années, à photographier, inventorier et rechercher le patrimoine arménien, j'ai découvert qu'il n'en restait pratiquement que des ruines, à part 2 édifices l'église palatine d'Artamar, sur l'île d'Artamar, sur le lac de Van, et puis précisément l'église, la cathédrale arménienne Soubigelagos, qui a été reconstruite au début des années 2010. Deux édifices arméniens en état pour à peu près 2500 édifices chrétiens plus 500 monastères dans toute cette région. C'est fort peu. Ce que je veux dire par là, c'est que en 1915, il y a eu un génocide, mais le génocide ne consistait pas seulement à éliminer une population de la surface de la Terre, mais aussi et progressivement à éliminer son patrimoine. Autrement dit, à éliminer la totalité d'une civilisation, les hommes et le patrimoine.
Mais parlons du présent, parce que votre action s'inscrit pour le coup complètement dans le présent.
Et justement, ce qui se passe en Irak, depuis quelques années, avec le développement de l'anarchie, avec les réseaux islamico-mafieux comme Al-Qaïda et Daesh, ce à quoi nous assistons, c'est justement tout à la fois des persécutions, des violences contre les hommes et les communautés minoritaires et particulièrement chrétiennes, mais aussi des violences contre le patrimoine de ces minorités et de ces communautés. Il s'agit donc, d'une manière ou d'une autre, d'une volonté de la part de ces groupes islamico-mafieux de réduire en poussière des civilisations, c'est-à-dire des hommes et leur patrimoine. Et pour prendre bien conscience de la valeur du patrimoine dans la richesse d'une civilisation, j'ai pris l'initiative avec quelques amis et organisations, notamment la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon, mais aussi avec l'œuvre d'Orient, avec Solidarité Orient et avec quelques autres mécènes. Nous avons pris l'initiative de créer un site internet à vocation patrimoniale qui recense, qui documente justement un inventaire partiel du patrimoine des minorités chrétiennes, yézidis, juives et sabéennes en Irak. En gros, les minorités non musulmanes, qui sont dans un état de grande fragilité.
Alors je lis l'annonce de votre site, hein, aux sources du projet mésopotamien entre Tigre et Euphrate, berceau de nos humanités, les chrétiens d'Irak et les yézidis ont contribué à façonner l'identité de cette terre et la citoyenneté irakienne. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Mésopotamia. Notre démarche, reposant sur une intuition, si nous prétendons prendre soin des vivants, nous devons aussi prendre soin de leur patrimoine.
Oui. Il y a une forme de conjugaison, une alliance subtile, mais réelle, et tout à fait simple à concevoir, entre ce que les hommes sont et ce qu'ils font, entre leur identité et entre ce qu'ils bâtissent. Les édifices, les monuments, les cathédrales, les temples, les mausolées sont en quelque sorte les balises de l'histoire de ces communautés. Détruire ces communautés, persécuter ces communautés, discriminer ces communautés, en y associant les violences et les destructions faites à ces balises historiques, revient en quelque sorte à déraciner ces communautés, ces civilisations, les déraciner des lieux mêmes où elles sont nées. Devons donc en prendre conscience.
Quelles sont vos méthodes? Vous voulez recenser systématiquement tous les lieux?
Pas
c'est
tout.
C'est votre ambition?
Pas tout, parce que c'est...
Pourquoi pas?
Ce serait possible avec des moyens considérables. Bienvenue à tous ceux qui veulent nous aider, et nous le ferons.
Donc ce sont des textes, ce sont des photographies?
Alors c'est un inventaire partiel d'une centaine de monuments.
Pour le moment?
Oui. Pour chaque monument, il y a des photographies, des textes, historiques, hagiographiques, géographiques, géopolitiques. Il y a aussi de la géolocalisation. Il y a également des témoignages que nous proposent les gens qui vivent en relation avec ce patrimoine. Il y a des reportages vidéo réalisés avec le concours de KTO. Et tout cela est proposé en langue française, mais aussi en anglais, en arabe et enfin en syriaque. Car nous nous faisons un point d'honneur à traduire, à l'image d'un miroir, dans ces différentes langues, à traduire également en langue syriaque, qui est une langue patrimoniale et qui ne doit pas disparaître.
Et ça veut dire que vous vous rendez vous-même avec votre équipe sur
oui,
ces lieux-là, où vous demandez à des voyageurs, par exemple, de vous communiquer des photographies
les
qu'ils auraient prises.
Les deux.
Donc on peut faire un appel, peut-être.
Oui. C'est un site participatif, puisque vous verrez, Sébastien, que ce site est ouvert à la contribution de chacun. En gros, pour faire simple, si une personne souhaite apporter une photographie, ou un document d'époque sur, je ne sais pas, l'église Martoma des Syriaques orthodoxes de Mossoul, eh bien, il peut le faire. Par exemple, il voit la notice sur notre site internet, il la voit en anglais, en français, en syriaque, peu importe. Il a lui-même, cette personne a elle-même des documents d'époque, des documents d'archives qu'il souhaite nous proposer. Eh bien, il peut nous les scanner et nous les envoyer tout simplement par mail avec une légende et nous les publierons. Voilà, donc c'est un site qui a tout à la fois une vocation un peu académique, on va dire, et documentaire, mais également une dimension participative et citoyenne. Parce que si j'insiste sur le mot citoyen, c'est parce que nous considérons que le patrimoine est source de citoyenneté.
Comment ?
Parce que le patrimoine est une fête. Le patrimoine est une fête de la fraternité. Vous savez, souvent, ces édifices sont construits par les meilleurs artisans. Pas forcément par des artisans chrétiens, ou musulmans, ou juifs, ou sabéens, mais par les artisans locaux. Que ces artisans locaux soient chrétiens, juifs, musulmans, sabéens, peu importe. L'important, c'est que le patrimoine, dès la source même de sa construction, le patrimoine fait souvent vivre une communauté villageoise, une communauté humaine, et souvent peu importe la religion.
Nous étions tout à l'heure dans l'évocation de ce pèlerinage, donc dans la Turquie orientale. Géographiquement, nous sommes à peu près dans la même région. J'essaie juste de comprendre quel pourrait être le lien, en fait, entre ces événements, entre votre vie passée. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes dans le concret.
Oui, j'essaie de penser l'avenir. Avec l'équipe qui participe à ce projet, et c'est une belle équipe ici en France, en Belgique et en Irak, avec cette équipe-là, nous essayons vraiment de réinscrire ce patrimoine dans l'histoire de l'humanité. Et ce faisant, nous essayons de bâtir l'avenir en le réinscrivant dans le patrimoine commun, en le réinscrivant dans l'histoire de la nation et de l'État irakien. Vous savez, ce que j'ai découvert, c'est que les Irakiens, pendant près de 40 ans, notamment sous la botte de Saddam Hussein, les Irakiens ont eu finalement très peu l'occasion d'approfondir leurs racines historiques et patrimoniales. Les Irakiens, en définitive, connaissent très mal leur patrimoine, voire pas du tout. Et le fait que des personnes extérieures comme nous viennent fraternellement s'intéresser à leur patrimoine et finalement leur révéler l'existence, l'histoire, la profondeur et l'enracinement de ce patrimoine est pour ces gens que nous rencontrons un objet de fierté, un objet de joie. Nous sommes systématiquement aidés, soutenus par les populations locales, chaque fois que nous nous déplaçons sur un site, qui vraiment regardent avec un œil nouveau leur propre patrimoine.
Parce que vous vous y intéressez, justement.
Parce que nous nous y intéressons.
Et donc ils vous posent des questions, ils se renseignent sur les valeurs historiques, sur la signification de ces monuments.
C'est exactement ça.
Peut-être des significations qui se sont perdues aussi.
Totalement perdues. Totalement perdues, sauf auprès des sources académiques qui existent. Il y a des sources savantes en France, les sources syriaques, que vous connaissez bien.
Les bibliothèques, les centres de recherche.
Les dominicains. Et un célèbre père et frère dominicain, Jean-Maurice Fier, qui dans les années 60, entre 1962 et 1965, a publié une somme considérable
et vous travaillez
en trois
avec...
volumes qui s'appelle La Syrie chrétienne.
Et vous travaillez avec le père Mérigou maintenant, qui a lui-même connu Mossoul.
Mossoul chrétienne.
À l'époque de sa splendeur.
Le père Mérigou qui est un immense savant et qui vraiment m'a tout appris du patrimoine.
Donc en fait, pour résumer l'importance de votre tâche, de cette mission que vous vous êtes donnée, c'est de mettre à plat, d'une certaine manière, le passé et le présent.
Oui.
Vous rassemblez les sources et vous regardez un petit peu ce qu'il en est actuellement.
Oui.
Donc c'est phénoménal comme travail.
Nous ne voulons pas que le patrimoine des chrétiens d'Orient disparaisse. Ce patrimoine a disparu dans certaines régions, comme en Turquie, pour les raisons que nous avons évoquées en début d'émission. Nous ne voudrions pas que ce patrimoine disparaisse en Irak, dans cette partie de la Mésopotamie. Nous ne voudrions pas qu'il disparaisse, même s'il devait être malencontreusement ou malheureusement abandonné, du fait des circonstances historiques et politiques.
Et le patrimoine humain vous intéresse-t-il aussi ?
Oui.
Vous recueillez des témoignages ?
Oui, précisément parce que nous recueillons les témoignages des personnes qui sont attachées à ce patrimoine monumental. En fait, c'est systématique. À chaque fois que nous visitons un monument, nous sommes accompagnés par les personnes qui sont en lien avec ces monuments. Et d'autre part, nous enregistrons ces personnes-là. nous ont des captations vidéo pour en faire des vidéos reportages. Et donc, nous avons la pierre nue n'est pas suffisante pour exprimer quelque chose de l'ordre de la foi et de l'esprit. Il faut donner à cette pierre une forme d'incarnation. Et cette incarnation ne peut exister qu'à travers l'être humain.
En deux mots, quelle serait la définition qui vous conviendrait, optimiste ou lucide ?
Pragmatique.
Vous avez l'ambition de créer la mémoire de l'avenir ?
Ce n'est pas une ambition. C'est un cheminement, dans le fond. C'est un peu comme ce livre, Sur le chemin de Galagos. Ce que nous accomplissons en équipe est un cheminement très pragmatique pour permettre aux gens de redécouvrir leur identité, de redécouvrir leur patrimoine et de l'offrir à la communauté des hommes.
Nous étions ce matin avec Pascal Maguessian sur deux thématiques, sur le chemin de Galagos dans un premier temps, un essai, un voyage, un pèlerinage et l'évocation d'une association plutôt, mesopotamiaheritage.org. Alors nous mettrons bien entendu sur le site de l'émission toutes les références utiles. Voilà, lisez et suivez surtout. Pascal, merci.
Merci beaucoup Sébastien.
Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Benjamin Vignal pour la réalisation de cette émission que nous retrouvons en balado-diffusion sur le site internet de France Culture, onglet Chrétien d'Orient. Bon dimanche.